应该是打高尔夫了。
On va les enfants. À bientôt. Au
revoir mon père.
Au revoir mon père.
Au revoir mon père. Au revoir mon père.
I love you, but you don't know what you're talking about.
I love you too.
Elle vous a trahi et vous n'avez jamais compris pourquoi.
Comment savez-vous toutes ces choses?
Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission de cinéma sur Transistor. Alors, hasard du calendrier, le pouvoir créateur de l'écriture est le thème des deux films dont il sera question aujourd'hui, Neruda et Nocturnal Animals, qui font de notre toile une page où l'écriture se fait image par la magie fantaisiste et fantastique du cinéma. Quant aux yeux qu'elle enchante, cette magie, il s'agit cette semaine de ceux d'Anastasia, Marie, Camilla, Héloïse et Nicolas. Et sans plus tarder, je te laisse la parole, Anastasia, pour Neruda de Pablo Larraín. Bonjour à toi.
Bonjour, ami. Le film Neruda nous raconte l'histoire d'un fameux homme politique chilien et poète en même temps qui a pris comme pseudonyme le prénom de Neruda. Il critique ouvertement le nouveau gouvernement au Congrès de Chili et le président demande alors sa destitution et confie à un certain inspecteur, Oscar Peluchenot, le soin de procéder à l'arrestation du poète. Neruda et son épouse, la peintre Delia del Carril, échouent à quitter le pays et sont alors dans l'obligation de se cacher. Le poète joue avec l'inspecteur, laisse volontairement des indices pour rendre ses traques encore plus dangereuses et plus intimes. Et dans ce jeu du chat et de la souris, Neruda voit l'occasion de se réinventer, de devenir à la fois un symbole pour la liberté et une légende littéraire. Alors personnellement, je suis assez perdue par rapport à ce film. Mais je voudrais bien sûr d'abord apprendre vos avis, Camilla et Marie. Bonjour à toutes les deux.
Bonjour.
Bonjour Anastasia.
Alors, qu'est-ce que vous en pensez?
Alors, je vais le dire tout de suite, ça m'a laissé assez sceptique. Bon, donc on pourra développer après. D'abord, c'est un film qui m'a beaucoup déstabilisée parce que je me suis fait avoir par le résumé sur Allociné. Je m'attendais à voir un biopic, un thriller politique, quelque chose comme ça. Ouais. Et en fait, juste pas du tout. Donc ça, déjà, ça m'a un peu déstabilisée. Je sais pas si c'était le cas pour toi aussi, Camilla.
Alors, moi, je trouve qu'il y a beaucoup de bonnes choses dans le film. Dispatché à l'intérieur du film, mais disons que l'ensemble effectivement me laisse un peu sceptique. Je trouve que moi, contrairement à toi, je trouve que l'idée de faire un film qui ne soit pas un biopic, mais plutôt un film centré sur une période spécifique de la vie de Neruda, et plutôt sur, plus sa manière de voir le monde, de son monde intérieur, plutôt que justement sur sa vie. De chronologique, c'était une bonne idée, mais disons que l'esthétique un peu foisonnante et un peu baroque comme ça qui change tout le temps, ça m'a un peu lassée au bout d'un moment.
Oui, je suis un petit peu d'accord avec ce que vous dites tous les deux, dans le sens où quand on sort du film, on est quand même un petit peu hébété par le caractère très irréel de ce qu'on vient de voir et cette intrigue qui fait un petit peu des nœuds sur elle-même. Moi, je sais que la première chose que j'ai fait, c'est que je me suis jeté sur la biographie de Neruda pour essayer de distinguer un petit peu le vrai du faux et essayer de me raccrocher au réel dans ma compréhension de ce film pour me rendre compte que, en fait, l'essentiel du film est fantasmé. Et je sais pas trop à quel point c'est le réalisateur qui fantasme Neruda, Neruda qui fantasme le policier, ou finalement le policier qui fantasme tout, parce qu'il y a un petit peu toute cette dynamique dans le film. Du coup, il y a un sentiment d'incompréhension face à ce film qui malgré tout est mené quand même tambour battant et nous emporte. Et du coup, il y a quelque chose de très très déroutant qui me fait dire que je sais toujours pas si j'ai réellement aimé, parce que oui, j'ai passé un bon moment, mais non, je sais pas exactement où on m'a amené.
Et ben, sur ce point-là, du coup, je suis pas trop d'accord, au sens où moi, ça n'a pas vraiment réussi à m'emporter, malheureusement. Sur le postulat de départ, ce que tu décris, je trouve que ça pourrait être super intéressant, mais la manière dont ça a été fait, ça m'a laissé assez froide. Et en fait, j'ai beaucoup aimé uniquement les 15 dernières minutes du film. Alors après, c'est une question, est-ce que ça vaut le coup d'aller voir un film uniquement pour les 15 dernières minutes qui sont géniales? Je sais pas, c'est un truc que je laisse à l'appréciation des auditeurs et auditrices.
Moi, je suis absolument d'accord avec vous tous. En fait, le film m'a rendu perplexe. Je trouve qu'il y a de bonnes choses. Je partage avec toi, Marie, le sentiment du froid. Mais moi, il me semble qu'il y a vraiment ce froid qu'on a... chez nous, ça a un rapport avec le froid dans le film, parce que moi j'ai eu l'impression qu'il n'y avait pas beaucoup d'émotions et que c'était vraiment pas l'objectif du réalisateur de rendre ce film émotionnel d'essayer de provoquer de la sympathie de la part des spectateurs. C'était vraiment, moi, à des moments, je pensais que c'était vraiment une expérimentation du réalisateur et l'essayer avec les changements des scènes quand voilà, les personnages ne parlent et tout d'un coup ils se trouvent dans un autre endroit juste comme ça. Et c'était vraiment pour moi l'expérience du réalisateur qui essayait de palper comment on peut faire la création, la présentation.
Ça. Et ça, je trouve que ça aboutit bien dans l'une des dernières scènes du film, c'est-à-dire cette grande scène dans la montagne. Alors, on voit bien que du coup, toute cette neige, c'est une grande page blanche en fait, sur laquelle il y a des choses à écrire.
C'est très métaphorique.
Et ça, c'était super. Mais c'est dommage que ça arrive au bout d'une heure 45.
Oui, pour moi aussi, la première partie du film, avec justement les changements de décor en plein milieu du dialogue, c'était un peu fatigant. Mais pour répondre à la question de Rémi, de où veut vous nous amener le film, je pense, comme tu disais Anastasia, que c'est un film sur la création artistique. Et ça m'a beaucoup fait penser à un autre film qui parle aussi de poésie et qui se passe aussi au Chili à peu près à la même époque, de 2016, Poésie sans fin d'Alejandro Jodorowsky, où on retrouve cette esthétique de saturation de personnages très baroques, de couleurs, de scènes qui s'enchaînent, de déguisements, de baroque, de patchwork. Et justement, pour avoir fait mon mémoire sur Jodorowsky, il admirait beaucoup Neruda et il a une phrase qu'il répète souvent dans ses ouvrages où il dit qu'il adorait le Chili à cette époque-là parce que c'était une époque où la poésie était présente dans toutes les sphères de la vie publique et que même les ivrognes récitaient des vers dans les bars. Et je pense que justement là où veut nous emmener le film, c'est de voir un peu la poésie comme un acte, c'est de voir comment la poésie peut réunir et créer une communauté. On voit ces images où dans les camps de concentration où est le général Pinochet, les ouvriers lisent des vers de Neruda et ont de l'espoir. Et ça, c'est un moment où politique et poésie sont très réunis. Et ça rejoint justement la vie de ce personnage qui était à la fois sénateur communiste et un des plus grands poètes de son pays et de son temps.
Ça m'a fait penser tout à l'heure, Camilla, tu dis que même les ivrognes récitaient des poèmes dans les bars et tout. Et en fait, le fait que le narrateur dans ce film, c'est un policier qui a l'air absolument ridicule, il est con presque, il est considéré comme ça par les personnages et par les spectateurs aussi, mais même lui, il essaie de faire de la création, parce que finalement c'est lui qui est narrateur, il a été créé par Neruda, voilà, on ne sait pas trop qui a créé qui.
Son langage est très poétique aussi, on dirait qu'il a une sorte de complexe d'Édipe, où à la fois il veut capturer et tuer Neruda, et à la fois il est complètement obnubilé par lui, il est obsédé, et il essaye aussi de l'imiter, jusqu'à confondre son propre récit avec des vers de Neruda, et finalement s'assumer comme personnage et comme création, de ce créateur.
Ça fait beaucoup penser à Borges, ces personnages typiques dont l'identité se dédouble et on ne sait plus exactement laquelle nourrit laquelle. Et finalement, il y a une espèce de cycle comme ça de ces deux personnages qui en forment qu'un parce qu'ils sont tous les deux un même fantasme de personnalité de Neruda.
Ils sont tous les deux à la fois personnages, création et créateur, avec des sortes d'esthétiques sur des séquences du film qui sont complètement différentes. Film noir,
western sur la fin.
Ouais, mais western, mais dans un paysage de la cordillère des Andes, ce qui rajoute un peu de...
Ça fait énormément penser au Grand Budapest Hotel de Wes Anderson, et l'esthétique andersonienne est extrêmement présente dans ce film, justement dans ce foisonnement, dans ce rythme, dans la façon dont la musique court à côté du film, j'ai envie de dire.
Ouais.
Et
même la couleur rose, j'ai l'impression, dans le Grand Budapest Hotel.
Les couleurs également, et puis la menace politique qui n'est pas loin avec ce général Pinochet dont on croise juste le regard
ouais,
une fois,
ça, genre...
mais qui malgré tout laisse ce petit espace de liberté, alors à l'enfance chez Anderson, à la poésie ici, espace de liberté qui fait la substance du film.
Ouais, alors je sais pas trop quoi penser de la charge politique qu'il y a dans le film, surtout au début en fait. Alors c'est la période où on a encore du mal à comprendre qui est cette voix off qui parle, mais voilà, il y a quand même... une critique, enfin, ils se moquent pas mal de ces communistes embourgeoisés qui font des grandes soirées et qui ne travailleraient pour rien au monde. Et je sais pas pourquoi ça s'efface complètement dans le film à un moment, ça disparaît et on en entend plus parler.
Mais je pense que c'est aussi pour montrer que Neruda est un personnage complètement polyfacétique, contrasté, et qu'il est juste un génie et qu'il a des vraies valeurs... de gauche, mais qu'à la fois, bah, il est devenu une personnalité très connue, et forcément, il s'est embourgeoisé. Et il rentre parfois en contradiction lui-même avec son attitude et ce qu'il prône en tant qu'idéo. Et justement, son garde du corps le lui fait remarquer une fois, en lui disant « tu devrais être plus humble ». Et il se reprend, et je pense que c'est intéressant de voir ce personnage pas comme pas de manière monolithique, mais aussi avec ses failles, mais sa grande humanité aussi. Par exemple, lorsqu'il donne son manteau à la petite fille parce qu'il ne peut pas lui offrir de l'argent.
Oui, et c'est le cas aussi du policier qui est bon mi abruti mi con, mais qui malgré tout témoigne d'une forme de sensibilité, une sensibilité très très noire et très désespérée. Et il y a aussi une quête de l'identité chez ce personnage du policier, puisqu'il est en permanence en train de rechercher ses origines et tourmenté par sa naissance.
Fils de quelqu'un.
Fils ou pas d'un grand nom de la police et d'une prostituée
Mais c'est ce mélange entre grandiose et complètement
grotesque.
Ouais, c'est ça. Je l'ai trouvé très attachant, moi, ce personnage.
Qui est depuis la scène initiale où on voit un débat du Congrès dans des toilettes.
Ouais, ça c'est tellement ridicule.
Ouais, ça c'est vrai. La scène d'ouverture de la pissotière, quoi. Alors,
peut-être quelque chose sur lequel on sera d'accord, c'est le talent des acteurs.
J'avoue, absolument.
Parce que, effectivement, Gael García Bernal, c'est quelqu'un de chétif, il est complètement ridicule dans ce film, alors que c'est un grand acteur et on l'a vu dans plusieurs autres films avoir une personnalité totalement différente. Et puis à la fin, il accède néanmoins à une sorte de grandeur. Certaines de ses paroles sont quand même très touchantes.
Oui, mais il finit à la fenêtre d'un motel comme un mauvais second rôle de série B. C'est très ironique aussi.
Ouais,
et
très
puis Louis Becco
est
vraiment puissant en Neruda aussi, je trouve.
C'est comme si on avait plusieurs fins possibles, soit le personnage secondaire qui finit consacré au héros, soit la scène finale qui finalement vient rompre...
Alors, je crois qu'on est à peu près d'accord que c'est un film un peu chaotique, je dirais. On ne sait pas trop quoi penser, mais moi, personnellement, je crois que ça vaut le coup de le voir, parce que je crois que, chers auditeurs et auditrices, vous avez vu comment on s'est lancé dans un débat et une discussion assez vive par rapport à ce film. Et je vous invite donc dans les salles du cinéma pour voir Neruda.
Voilà, et nous continuons donc avec un deuxième film, et en l'occurrence Nocturnal Animals de Tom Ford. Et je suis avec Nicolas et Héloïse pour en parler. Bonjour à tous les deux.
Bonjour Rémi.
Bonjour.
Ah donc, le film se centre autour de Suzanne qui dirige une galerie d'art et enchaîne vernissage et salon mondain sur la côte ouest des États-Unis. Et pour autant, on comprend vite que le simulacre d'art qu'elle expose et la grande maison vide où elle vit pendant que son mari la trompe à New York la dégoûte et lui renvoie l'image d'un échec insurmontable. Un jour pourtant, elle reçoit le manuscrit d'un roman que son premier mari, amour de jeunesse vite évacué, lui dédie. Elle commence donc la lecture du livre, qui se surimprime peu à peu à la réalité et offre une relecture glaçante d'un parcours amoureux avorté. Alors il y aurait sans doute encore beaucoup de choses à dire déjà sur le scénario, mais je vais peut-être tout de suite commencer par vous demander votre avis sur le film, Nicolas et Héloïse.
Alors moi je suis sortie assez mitigée,
Et maintenant, avec le recul, j'ai beaucoup aimé ce film. Il m'a... Oui, non, il m'a pas lâché et j'étais vraiment sous tension. Et la fin m'a laissé bouche bée.
Bien, moi aussi, j'étais pas mitigée en sortant. J'ai vraiment beaucoup aimé le film. Et c'est vrai que bon, moi, j'en sors, je l'ai vu ce matin et toute la journée, j'y ai pas mal repensé.
C'est vrai qu'on y repense beaucoup. Enfin, moi, j'y ai repensé quand même en deux jours.
Mais en ce qui me concerne, alors, je suis peut-être un petit peu plus mitigée que vous. C'est-à-dire que je trouve que ce film est porteur de promesses énormes et du coup, les déceptions qu'il porte sont assez grandes aussi pour moi. Je suis vraiment impressionné par la puissance du scénario et l'audace de ce scénario. Et tu parles de la dernière scène, Héloïse, alors on va peut-être pas en parler, mais cette dernière scène est vraiment extrêmement intelligente et osée pour un film hollywoodien. Oui. Parce que c'est une non-scène. Mais malgré tout, je trouve que la réalisation souffre d'un certain nombre de manques qui m'énervent parce que j'ai très très envie que ce film soit bon, il peut l'être, et il y a un certain nombre de choses que je trouve ratées. Alors on reviendra peut-être dessus, mais pour le coup je trouve la réalisation vraiment très académique d'une certaine façon, et en particulier, alors c'est lié au scénario, mais les dialogues, et particulièrement ceux liés à Amy Adams, je les trouve à pleurer. Et ça m'a énormément déçu pour un film qui, comme je le dis, était vraiment extrêmement prometteur.
Non, c'est vrai que j'ai l'impression qu'il... J'ai pas été déçu, mais j'ai l'impression qu'il manquait des choses. Il y a des morceaux d'intrigue et des morceaux d'idées qui étaient seuls.
Moi, je trouve que justement, il y a une sorte de mystère qui plane, en fait. Donc, à un moment, on aperçoit la fille de Suzanne. Puis voilà, ça reste en suspens. Et c'est ce côté très mystérieux qui justement, fait que donc, c'est inabouti, en effet. Ouais. On aimerait que ce soit plus.
Mais je trouve ça séduisant aussi, oui.
C'est très séduisant.
Ce qui m'a manqué, c'était... Il y a eu une scène au milieu, donc, où Suzanne est dans sa galerie. Elle rencontre les autres directrice de sa galerie, et on a l'impression qu'elle sombre dans la folie parce qu'il y a plusieurs choses qui se passent dans cette scène, et en fait non, elle est tout à fait saine d'esprit, et ça m'a gêné.
Moi je pense que c'est pour montrer un peu la hantise, le fait qu'elle est hantée par son passé, en fait. Enfin, c'est ma lecture personnelle de...
Oui, c'est tout à fait.
Justement, si on revient sur ce passé, donc le passé et l'histoire qui est racontée dans le roman, parce que finalement, les deux temporalités de ce film, c'est pas du tout le temps présent de la lecture, qui sert juste de support à la surimpression entre le passé, qui est une histoire d'amour ratée, et ce qui se passe dans le livre, à savoir, ça tient du film noir, donc c'est l'histoire en gros d'une famille qui se fait agresser pendant la nuit sur une route.
Et ensuite, l'enquête policière qui n'est pas vraiment une enquête, mais plutôt une recherche de vengeance.
De vengeance, quoi. Et qui suit après le meurtre et le viol de la femme et de la fille, du coup du personnage principal du roman. À savoir que ce personnage principal est joué par le même acteur que l'auteur. Voilà. Et donc du coup, il y a vraiment une surimpression très nette déjà au niveau des acteurs, mais je trouve que la façon dont c'est fait est vraiment très intéressante, et en particulier au niveau de l'esthétique qui appuie ça de façon saisissante, dans la mesure où les scènes fictionnelles sont filmées d'une façon extrêmement réaliste, et à côté de ça, la partie qui est censée être réelle et réellement vécue, qui est extrêmement éthéré, avec des décors monochromes où les personnages se détachent avec une netteté complètement surréelle, et finalement ça fait vraiment basculer la réalité dans la fiction et vice versa, et ça je trouve ça vraiment très fort.
Oui, ça c'est vraiment...
Oui, après cette esthétique, il y a une esthétique très très forte tout au long du film. Alors bon, on sait d'où vient le réalisateur, hein, c'est un styliste au début. Et il y a vraiment une volonté de faire des choix esthétiques radicaux, et ça passe déjà par la scène d'ouverture, je pense.
Oui, bah après, les choix esthétiques radicaux dans la partie réalité du film sont aussi très liés au fait que l'héroïne est une directrice de galerie d'art qui expose pas de l'art classique et figuratif, on va dire.
Ouais, moi, je trouve que cette première scène, après, c'était personnel, hein, mais elle crée un malaise total. Et finalement, c'est un malaise qui perdure tout au long du film, donc avec la première scène avec la voiture, père...
Ouais. Moi, justement, l'ouverture, j'ai trouvé ça incroyablement absurde et grotesque, mais pas choquant. Ça m'a pas mis dans un état de tension. Alors que la première scène du livre m'a vraiment hanté tout le film.
Mais je pense que ces deux scènes sont peut-être à mettre en regard aussi, la première du livre et la première du film, et le côté choquant et grotesque, finalement, on le retrouve dans les deux. Enfin, je pense qu'il y a vraiment cette surimpression perpétuelle et cette volonté, à la fin, de nous montrer la vacuité complète de la vie de cette femme. Et c'est vraiment un film qui parle d'un échec, de l'échec in fine, de l'imagination à recréer ce que la vie n'a pas su faire. Ouais.
Ou être autre chose que le modèle instauré par les parents, surtout.
Aussi.
Parce que elle s'évertue à ne pas ressembler à sa mère tout au long du film, par ses choix.
Tout en lui ressemblant
son réchec est là, je pense.
Et donc, voilà, et cet échec dont toute la violence se déroule dans le livre. Parce que la partie relatée par le livre est extrêmement, extrêmement violente. Et les
parallèles arrivent. Petit à petit, à la fin du film, c'est même complètement évident parce qu'il y a des phrases du livre qui sont tirées de la réalité, en fait.
C'est évident, mais en même temps, c'est pas forcément toujours évident, je trouve. C'est intelligent parce qu'il y a quand même ce suspense, ce mystère qui reste.
Le parallèle en fait se dresse après au niveau du personnage masculin en fait, parce que finalement le personnage masculin c'est celui qui réussit dans cette histoire et qui ayant réussi doit disparaître. C'est ça qui est très cruel pour Suzanne, c'est ce personnage masculin qui réussit sa vengeance et par la même
sa disparition. Et il réussit finalement à la reséduire tout en lui expliquant qu'elle l'a perdu pour toujours.
Et qu'elle a perdu pour toujours.
Oui, et puis c'est une vengeance quand même qui reste très douce, elle est cruelle, mais elle est douce. C'est pas la vengeance qu'on s'envoie, le revenge, dans la salle
d'ailleurs,
des portraits.
D'ailleurs, en fait, j'ai vu ce film, mais ça n'a rien à voir avec l'idée que je m'en faisais après avoir vu la bande-annonce. C'est-à-dire que j'ai cru, en voyant la bande-annonce, que ça serait un film autour d'une... j'avais pas du tout compris qu'il y aurait deux histoires déjà.
Oui, une vendetta d'un mari abandonné.
C'est-à-dire dans la bande-annonce on voyait des scènes de violence, de coups de feu, ce genre de choses, et je pensais vraiment que il y avait une histoire trouble autour de ce premier mari qu'elle avait peut-être arnaqué financièrement ou traîné
sentimentalement,
devant la justice.
Et je trouve que c'est ça qui est très malin dans le film, c'est que finalement c'est quelque chose de naturel et de douce.
La vengeance violente, en fait, elle reste circoncise
au
roman,
cadre du livre.
Au roman, à la fiction, dans le film.
Oui, 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 vraiment. Alors, malgré tout, bon, je garde mes réserves. C'est-à-dire que je suis complètement d'accord sur le fait que tous ces éléments de scénario et la façon dont le film est pensé est vraiment très intelligente. Je trouve que ça manque un petit peu d'audace à certains moments au niveau de la réalisation. Je trouve que les plans sont trop classiques. Les violons m'agacent. Tout le long du film.
Moi, je trouve que le gros de l'audace, clairement, elle est dans la scène finale. C'est là où on voit quand même toute l'audace.
Ah oui, complètement. D'accord. Et moi, j'y ai pas cru. C'est le générique est tombé, je n'y ai pas cru. Je suis resté 5 secondes à me dire « Ah bon ?»
Oui. En effet, bien donc, voilà, chers éditeurs, ça passe encore cette semaine au CNP de Terreau, si je ne m'abuse.
Ted, suit up !
Lana. Lana. Lana.
Lana!
What?
Danger zone.
Say my name.
Your eyes are burning.
You're goddamn right.
Cool. Cool, cool, cool.
Boy, these pretzels are making me thirsty.
While my days are not taking you seriously, they're certainly coming to a middle.
Plata o plomo.
Democracy is so overrated.
Office.
Winter is coming.
Et même si je n'avais pas encore parlé de lui, il était là depuis le début, je retrouve Pierre qui, comme d'habitude, va donc vous parler de séries. Bonjour à toi, Pierre.
Bonjour Rémi. En effet, cette semaine, je vous propose de nous plonger à nouveau dans les années 80. Mais cette fois, pas de mode américaine à faire pâlir de honte nos parents, car direction l'Allemagne. Je vous parle donc cette semaine d'une perle sortie tout droit d'un couple allemand d'auteurs-producteurs, Anna et Jörg Winger. Diffusé il y a un an en janvier 2016 sur Canal+, Deutschland 83 a d'abord été diffusé aux États-Unis sur Sundance TV, 3 mois avant sa diffusion dans son pays natal sur RTL, et 6 mois avant son arrivée chez nous. Cette série résulte d'un habile mariage entre deux chaînes télévisées, à savoir RTL pour l'Allemagne et AMC pour les États-Unis. Mais assez parlé des trucs barbants que l'on peut lire dans le générique. C'est d'ailleurs une série en allemand, je tiens à le préciser pour éviter les mauvaises surprises. Deutschland 83, c'est vraiment excellent. Voilà, je vous donne le verdict d'emblée parce que pour tout vous dire, je ne suis pas sûr de trouver grand-chose de négatif à dire à propos de cette série. Sauf peut-être un cliché qui m'a vraiment ennuyé, celui du fils d'un général dans l'armée pour faire comme papa, mais qui est un pacifiste convaincu qui découvre son homosexualité et la consomme avec un professeur d'université espion est-allemand. Enfin bref, il n'y a vraiment que ce passage cliché qui m'a déplu dans les 8 épisodes de 45 minutes. Encore une fois, premier point positif, cette série raconte une histoire et se conclut dans l'épisode final, même si une suite est prévue sans date de diffusion. On suit Martin Rauch, un jeune garde-frontière est-allemand honnête qui fait bien son travail, a une mère avec un rein déficient et une fiancée convaincue par le bien fondé de la République démocratique d'Allemagne. Il se retrouve recruté par sa tante dans les services secrets est-allemands pour devenir l'aide de camp du général Edel, commandant des forces allemandes de l'OTAN. Martin, dont le nom de code est Colibri, se lie rapidement d'amitié avec le fils du général. Il doit donc gérer une double vie en tant qu'agent infiltré. Sa mission est d'autant plus difficile que sa hiérarchie est persuadée que les États-Unis veulent déclarer la guerre nucléaire à l'URSS. Car oui, vous l'avez compris, 83 dans le titre, c'est parce que ça se passe en 1983, sous Reagan, en plein réchauffement donc de la guerre froide. L'intrigue s'inscrit donc dans une histoire vraie, à savoir celle de l'opération Able Archer. Reagan voulait renforcer le potentiel militaire de l'OTAN et donc placer des missiles Pershing, des machines nucléaires, en Allemagne de l'Ouest. L'URSS, de son côté, était persuadé que c'était une forme de menace qui mènerait directement à la guerre nucléaire. Le secrétaire général du Parti communiste, le fort peu connu de notre historiographie Yuri Andropov, décide donc de se préparer à frapper en premier. Le jeune Martin se retrouve embarqué dans cet imbroglio géopolitique, et pire encore, dans tous les événements ayant secoué l'Allemagne de l'Ouest en 1983, à savoir, par exemple, tous les rallyes pour la paix, l'attentat contre l'Institut culturel français à Berlin, etc. Voilà, je pense que vous me voyez venir. Cette série nous plonge dans une période peu connue et nous la montre de manière très élégante. Par un assemblage d'images d'archives autour du générique de chaque épisode, on est plongé dans cette année pleine de rebondissements et la tension monte. On assiste par la petite porte aux conférences de l'OTAN, aux exercices militaires, aux manifestations antinucléaires. C'est vraiment très riche et plein de références comme on s'y attend quand on sait que c'est une série allemande. Bien sûr, ça rappelle très fortement. Quel film, Rémi ? Goodbye Lenin, en effet.
Bon, d'accord.
Bon, c'est pas grave, hein. Après tout, c'est toi le cinéphile.
Après tout, je ne l'ai vu que 2 fois.
Du coup, ça rappelle ce film, Goodbye Lenin, et on retrouve toujours cet humour plein d'autodérision et de situations incongrues. Mais on a aussi des situations qui nous ouvrent les yeux. Bon, c'est un classique, mais je trouve qu'on n'y pense pas assez pour cette situation particulière de l'Allemagne moins de 10 ans avant la chute du mur de Berlin. La série nous montre un jeune de l'Allemagne de l'Est qui découvre la vie à l'Ouest. Mais c'est pas blanc ou noir, sauf pour un personnage, ce qui donne lieu dans le dernier épisode à une scène de confrontation des plus jouissives de toutes les scènes de série que je n'ai jamais vues. Les hauts dignitaires de l'Est abusent bien sûr de leur position et connaissent peut-être un peu trop bien les coutumes de l'Ouest. Tout en défendant leur position et leur point de vue, au risque de pousser à la guerre nucléaire. Niveau écriture, Deutschland 83 fait vraiment figure d'exemple à suivre. On enchaîne les différents arcs sans souci, tous ayant la mission de Martin au cœur du sujet. C'est comme ça que l'on s'immisce dans la vie familiale du général Edel, nous montrant une image assez classique finalement d'une belle famille bien bourgeoise d'Allemagne de l'Ouest, avec la tension père-fils qui se cristallise lors d'une scène d'engueulade bien violente, avec bien sûr rappel du passé nazi de la famille. Ça claque bien. Mais on suit aussi la vie de la mère de Martin, de sa fiancée et d'un collègue de ceux-ci, tous restés à l'Est, du coup. La série parvient aussi à se montrer sobre et particulièrement efficace en ce qui concerne les scènes d'espionnage. À chaque mission, on se demande vraiment comment Martin va y arriver. Et c'est vraiment réaliste. Ça fait un bien fou de sortir de cette vision pleine d'action et d'explosion de l'espionnage pour se tourner vers le cœur du sujet, les espions eux-mêmes, et comment ils vont s'intégrer dans les situations. Et leur hiérarchie aussi. parce que c'est encore tout un autre arc tourné autour des luttes de pouvoir au sein des services secrets est-allemands, qui se tirent la bourre pour être bien vus de Moscou tout en pensant agir pour le bien commun. Voilà, c'est le bordel niveau arc, mais tout est parfaitement bien agencé, et franchement, il n'y a pas de longueur, pas de scène inutile. La tension est frappante et vraiment grandissante tout au long des épisodes, ce qui est renforcé par l'épidémie de sida qui faisait ses débuts sur la scène médiatique comme autre touche supplémentaire au contexte tendu. En ce qui concerne le jeu d'acteurs, rien à dire. Ils sont tous vraiment parfaits dans leur rôle, aucun surjeu, aucun problème de cohérence. C'est vraiment le top du top. L'image est sublime avec des teintes flashy, des couleurs chaudes, ce qui à la fois contraste avec la tension permanente, mais la photographie s'assombrit à mesure que s'avance l'intrigue. Je n'ai pas vraiment porté une attention précise à ce jeu de couleurs, mais voilà, c'est assez représentatif que le souvenir que j'en garde soit quelque chose de flashy, fort, bien contrasté, mais qui semble se ternir plus la situation dégénère. Ça donne un style bien marqué à la série et sert l'histoire. Que demander de plus ? Tout est fait pour que cette série soit parfaite. La musique participe aussi pleinement à l'ambiance. La playlist est exceptionnelle si vous voulez retrouver le rock et l'électro naissant des années 80. Bien sûr, la série est dotée d'une bande originale plus conventionnelle, et les références musicales n'apparaissent que par moments, toujours à point nommé, il faut le dire. Ça peut aussi être plutôt discret, comme Sweet Dreams d'Eurythmics, qui passe à la radio d'un supermarché dans lequel Martin découvre l'abondance pleine de couleurs des rayons fruits à l'ouest. La nourriture est aussi importante niveau détail, par exemple, Martin souhaite commander un steak, on lui demande quel type de steak, à savoir la découpe quoi, et lui ne comprend pas et se retrouve à dire un steak de vache. Dans l'épisode précédent, il découvre les hamburgers, et son contact, le prof d'université, le prévient que c'est plein de produits chimiques pas bons, pas comme la bonne viande tout à fait naturelle et bonne pour les braves Allemands de l'Est. Et c'est ce genre de phrases, de situations qui sont à la fois drôles et révélatrices. On revit vraiment pendant 360 minutes la guerre froide en Allemagne. On redécouvre la technologie de l'époque, la musique, le style vestimentaire, les grandes actualités, l'atmosphère, tout. C'est vraiment top. Ah, et dernier détail qui m'a marqué... Rémi, tu savais, toi, qu'il y avait un véritable mur le long de la frontière inter-allemande ?
Non.
Eh bien, moi, je le savais un peu, mais c'est quelque chose qui m'échappe tout le temps, parce qu'on pense toujours, bien sûr, au mur de Berlin.
Oui.
Et on n'imagine pas que sur presque, si je me trompe pas, quelques centaines de kilomètres, il y avait la même chose, avec des barbelés, des fils de fer, des murs, etc. Et du coup, on le voit dans Deutschland 83. Et c'est assez marquant parce qu'on voit aussi les formalités pour passer d'une zone à l'autre. Ça ouvre les yeux sur plein de petits points historiques comme ça. Mais il n'y a pas que les historiens sériphiles et cinéphiles comme moi qui vont adorer cette série. C'est un bon drame, une bonne série d'espionnage. En bref, c'est une série allemande. Voilà, cette série est digne de tout ce que les Allemands font de mieux pour nos petits écrans. Je lui accorde très
Derek.
Facilement... Oui, bon, certes, il y a Derek, mais en soi, Derek est... Bon, disons que les séries allemandes se sont rattrapées depuis les années d'errance avec Derek. Ça n'empêche que j'accorde à Deutschland 83 19 secrétaires généraux du Parti communiste sur 20 présidents américains avec la mention « Warum hast du diese Serie nicht gesehen ? Gay, schnell !»
Eh bien, vielen Dank, Pierre. J'ai encore beaucoup trop de films à voir dans ma vie, mais tu finiras bien par me convaincre de passer un petit peu de temps sur les séries si tu continues comme ça, ce qui est ta grande mission dans ce monde, j'imagine.
Eh oui.
Et puis nous terminons comme d'habitude avec quelques idées de sortie pour cette semaine. Je commence avec 3000 nuits de Mai Masri. Nous sommes dans les années 80 en Palestine et la révolte gronde dans une prison israélienne où sont détenues des prisonnières politiques palestiniennes. Layal, une jeune institutrice de Naplouse, vient d'arriver condamnée à 8 ans de prison pour un attentat dans lequel elle n'est pas impliquée. Et elle partage la cellule israélienne condamnée pour droit commun et s'habitue progressivement à cet univers carcéral. Mais elle découvre alors qu'elle est enceinte, et envers et contre tous, elle décide de garder l'enfant dans ce petit enfer qu'est cette prison. Alors c'est véritablement un film magnifique, qui est porteur d'une détermination, d'une rage et d'un espoir phénoménaux, et je vous encourage donc à vous rendre dans l'une des quelques dernières séances qu'il y a à Lyon de ce film, donc 3000 nuits de Mai Masri, au Zola ou au cinéma Opéra. Je continue avec Belle Dormant, d'Ado Arietta. Alors je vous lis le synopsis, dans le royaume de Lettonia, le jeune prince Egon passe ses nuits à jouer de la batterie. Le jour où il n'a qu'une idée en tête, pénétrer le royaume de Kent pour retrouver la belle dormant et briser le charme. Mais son père, le roi, qui ne croit pas au conte de fées, y est totalement opposé. Et c'est Maggie Jerkins, archéologue de l'UNESCO, qui va lui donner la clé. Bon. L'absurdité du scénario vous donne une idée de la loufoquerie que l'on peut attendre de ce film, impression que confirme la bande-annonce à laquelle je vous renvoie. Ça ressemble un petit peu à un mélange de La Loi de la Jungle d'Antonin Perejatko et du célèbre Podan de Jacques Demy, et en tout cas, ça a l'air assez jubilatoire et ça passe au CNP Bellecour. Je continue avec le festival Sport, Littérature et Cinéma à l'Institut Lumière qui commence aujourd'hui. Et qui vous permettra de voir un certain nombre de films de fiction autour du sport, mais également des documentaires, et en particulier le chef-d'œuvre de la cinéaste Leni Riefenstahl, Les Dieux du Stade, chef-d'œuvre gênant s'il en est, puisque le film est aussi une commande d'Adolf Hitler et chante la gloire du régime nazi à travers l'exaltation du sport dans l'épisode majeur que furent les Jeux Olympiques de 1936. En tout cas, c'est un film d'une importance capitale dans l'histoire du cinéma que je vous encourage donc à aller voir ce samedi 28 janvier à 14h45 à l'Institut Lumière et la séance sera présentée. Et maintenant, je te donne la parole, Anastasia, pour quelques idées supplémentaires pour ceux à qui ça ne suffirait pas.
Merci Rémi. Bon, on a bien révisé les meilleurs films de l'année précédente avec le Festival Télérama et il est le temps de découvrir les films de 2017. Il paraît que la production cinématographique américaine s'est plongée dans la nostalgie des gens qui ne sont pas très à la mode aujourd'hui, mais qui apparemment reprennent leur succès. Je parle concrètement de la comédie musicale qui a fait beaucoup de bruit lorsque du festival des Golden Globes, La La Land, dont vous avez certainement entendu parler, et du coup j'en dis pas plus. Et vous pouvez le voir dans les salles de Lyon à partir d'aujourd'hui. Un autre genre repris cette fois par Ben Affleck dans le film Live by Night, où Ben Affleck est à la fois le personnage principal et le réalisateur. Si vous êtes amateur des films sur les gangsters, je vous invite à découvrir ce film dont l'action se passe aux années 20 à Boston. Il s'agit du fils du chef de la police de Boston, qui a rejeté depuis longtemps l'éducation très stricte de son père pour mener une vie de criminel. Pourtant, même chez les voyous, il existe un code d'honneur que le personnage principal n'hésite pas à bafouer. Il se met à dos en puissant Caïd en lui volant son argent et sa petite amie. Sa liaison passionnelle ne tarde pas à provoquer le chaos. Entre vengeance, trahison et ambition contrariée, le héros principal quittera Boston pour s'imposer au sein de la mafia de Tampa.
Voilà, d'étoiles plein les yeux, c'est fini pour aujourd'hui. Pour cette édition, c'était Marie Lécuyer, Camilla Mello, Héloïse Jandel, Nicolas Auvray pour le cinéma et Pierre Lemoelle pour les séries. Animation, prise de son, réalisation, Anastasia Kozireva et Rémi Cerda. Nous sommes de retour la semaine prochaine. Et d'ici là, bonne semaine à tous dans les salles obscures.